Puis ce matin, on va prendre le repas du Seigneur tout à l'heure, mais on revient dans l'Évangile de Jean. Pour quelques semaines, on va être dans l'Évangile de Jean. Et juste pour se remettre en contexte, parce que ça fait longtemps qu'on était dans l'Évangile de Jean, nous retrouvons Jésus avec ses disciples quelques heures avant l'arrestation de Jésus, quelques heures même, pour ainsi dire, avant sa crucifixion. C'est le cœur de Jésus qui est déversé dans ses disciples. Il est en train de leur donner des derniers encouragements. Il veut vraiment voir cette communauté-là devenir une communauté chaleureuse où ils prennent soin les uns des autres. Dans Jean 15, verset 17, on lit « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Jésus a à cœur de voir ses disciples former des communautés partout sur la terre où la caractéristique principale dans notre relation les uns avec les autres, c'est l'amour. Le premier commandement entre nous, dans notre manière de nous comporter les uns avec les autres, c'est de s'aimer les uns les autres. C'est le premier commandement dans nos rapports les uns avec les autres. Puis on va voir dans le passage de ce matin, dans le passage qu'on va lire, raison de plus pour s'aimer les uns les autres, que notre message n'est pas toujours bien reçu à l'extérieur. Et Jésus veut préparer ses disciples à la réception qu'il va y avoir face au message de l'Évangile. Mais il y a un contraste très, très fort entre cette communauté, vraiment une communauté d'amour que doit être l'Église locale. Notre témoignage dépend de notre amour les uns pour les autres, mais je dirais notre soutien, notre support dépend de notre amour les uns pour les autres. Et ensuite, ça va contraster de manière très, très forte avec la manière que le monde va réagir souvent au message de l'Évangile. Alors, on va aller dans la prière, puis on va écouter la lecture des Écritures. Seigneur Jésus, tu nous as aimés. On va célébrer ça tout à l'heure avec le repas du Seigneur. Tu nous as tellement aimés que tu es venu mourir sur la croix pour nous, pécheurs, afin que nous entrions dans ta famille, dans ta gang, Seigneur, que nous appartenions à ta famille, à ta maison, à toi, Seigneur. Nous ne sommes pas orphelins, même si souvent, lorsqu'on regarde notre expérience dans le monde en général, on peut se sentir seul, comme Michel le disait, mais en même temps, nous ne sommes pas orphelins, Seigneur, parce que tu nous as fait rentrer dans ta famille. Je te prie de parler à nos cœurs ce matin par ta parole. Viens, Seigneur, nous rendre forts en toi. Vraiment affermir notre sentiment d'identité, d'appartenance à l'Église de Christ, à ta famille, Jésus. Et viens nous remplir de courage, de force pour aimer un monde qui souvent ne recevra pas bien le message, un monde qui souvent va nous traiter comme ils t'ont traité, Seigneur. Mais en même temps, plusieurs vont accepter l'Évangile. Et c'est d'esprit-là qu'on va annoncer l'Évangile. Alors, viens nous fortifier, viens parler à nos cœurs puissamment ce matin. Je t'en prie dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Les versets 18 à 27 dans la nouvelle édition de Genève. Jean 15, versets 18 à 27. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Mais c'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu du ciel, et si je ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, leur péché est sans excuse. Celui qui a de la haine pour moi en a aussi pour mon Père. Si je n'avais pas accompli au milieu d'eux des œuvres que jamais personne d'autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, bien qu'ils les aient vus, ils continuent à nous haïr, et moi et mon Père. Mais il fallait bien que s'accomplisse cette parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Quand le défenseur en justice sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins, parce que depuis le commencement, vous avez été à mes côtés.
Merci, Esther. Je reviens dans la section juste avant, au verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez en mon nom, au Père en mon nom, il vous le donne. » La vision que Christ a pour son Église, c'est une Église qui porte un fruit en abondance, un fruit qui est riche, un fruit qui ressemble au fruit que lui a porté. Il a démontré l'amour du Père, il a aimé les gens, il a montré une religion qui est pure, qui est sans tache, qui est sans hypocrisie. Et sa prière, son désir, c'est que son Église porte un fruit merveilleux pour le monde. Puis une partie de ça, c'est dans l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres. Mais en même temps, lorsqu'on arrive au verset 17-18, quel contraste! Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Le commandement qu'il nous donne, c'est de s'aimer les uns les autres. Puis là, il commence à préparer ses disciples au fait que cet amour-là, vous allez le trouver dans la communauté de l'Église, dans la communauté de foi, dans la famille de Dieu. Vous n'allez pas trouver la même réponse au message de l'Évangile, la même réponse au christianisme dans le monde. Il dit non, ça va être une réaction normale. Alors ce matin, je vais faire quelque chose, je vais vous apporter un pep talk. C'est tellement mon genre d'avoir des pep talks, des petits speeches de motivation. Fait que j'ai 3 points ce matin, je suis sûr qu'ils vont vous motiver énormément. Mon premier point, c'est ça va faire mal. Mon deuxième point, c'est tu fais plus partie de la gang. Puis mon troisième point, c'est prends pas ça personnel. C'est bon? Pour vous motiver ce matin, c'est un pep talk juste pour vous encourager ce matin. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Jésus nous a averti que ça allait faire mal d'être ses témoins. Mais nous savons à qui nous appartenons, alors annonçons l'Évangile. Amen? Ça va faire mal. Premier point, ça va faire mal. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Jésus veut préparer ses disciples. Il veut préparer ses disciples parce que lui est très lucide, il est très conscient. Il sait ce qui va se produire lorsque, après sa résurrection, l'Esprit-Saint va être donné à la communauté des disciples de Jésus et ils vont être transformés par la puissance de l'Évangile, dans une communauté de grâce, mais qui va avoir un message qui ne sera pas toujours bien reçu. Jésus sait très bien ce qui est réservé à l'Église. Souvent, nous, on est dans un contexte où on a l'impression que si on présente bien l'Évangile, ça va être bien reçu, ça va bien passer. C'est une illusion qu'on a, je pense, qui est due au fait qu'on vit en Occident, puis en Occident, bien, on a vécu, 70 ans de relative paix en Occident. Une abondance, une prospérité, beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté. Et puis, l'Europe, l'Occident, a été construit quand même sur des principes judéo-chrétiens, donc il y avait une place pour le christianisme. Puis tout ça nous donne l'impression que si on fait un bon travail, si on présente bien l'Évangile, la société va être super excitée avec le christianisme, ça va être bien reçu, on va avoir plein de liberté. Vous savez quoi? L'Église a plus que 70 ans. L'Église vit ailleurs qu'en Occident aujourd'hui. C'est une illusion, ça. Jamais Jésus nous a promis que l'Église serait bien reçue dans ce monde. Non, l'Église est en mission, on a un message. Et l'Évangile va être bien reçu par une tonne d'individus. Ça ne sera jamais la majorité. Et donc, on peut se bercer dans cette illusion que, ben là, si ça va moins bien, c'est peut-être parce qu'on ne présente pas bien l'Évangile. Écoutez, dans la quasi-totalité de l'histoire de l'Église, le christianisme n'a pas été populaire. C'était impopulaire. Actuellement, sur la Terre, dans la majorité des endroits où les êtres humains vivent, le christianisme n'a pas une entière liberté. Si je vous dis qu'il y a à peu près 100 millions de chrétiens en Chine, est-ce que vous pensez qu'ils ont une totale liberté? J'ai fait allusion à ça dernièrement. Actuellement, avec les mesures sanitaires qui ont été mises en place en Chine pour appuyer la gestion de la pandémie, bien dans une bonne philosophie communiste, tout ça ne va pas se retirer après. Hein? Et donc, les chrétiens qui ne font pas partie des églises enregistrées, églises enregistrées qui doivent soumettre les prédications à un responsable politique du Parti communiste pour approuver le sermon. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas une tonne de vrais chrétiens dans ces églises-là. Bien, les autres églises ne sont pas enregistrées et se réunissent à deux familles, par foyer, clandestinement, pour ne pas être dénoncés par des voisins. Ça, c'est la réalité pour 100 millions de chrétiens en Chine. C'est la réalité. Nous, on vit dans une espèce d'illusion où on se dit, je sais qu'il y a une pilule à faire avaler, mais si on trouve, vous savez, il y a des médicaments qui ne goûtent pas bon, puis on met un petit enrobage, un petit coating un petit peu sucré, là, puis on se dit, comme ça, ça va bien passer, puis le remède va faire son effet après. Le problème, c'est que lorsque tu mets un petit coating sur l'Évangile, tu n'as plus l'Évangile. Tu n'as plus l'Évangile. Il n'y a pas comme de belle manière d'enrober le message. Il y a plein d'amour à donner, je vais y venir. Mais il n'y a pas de belle manière d'enrober le message. Et donc, Jésus dit au verset 20-21, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Donc, il y en a qui vont bien répondre, il y en a qui vont rejeter. S'ils acceptent ma parole, ils vont accepter la vôtre. S'ils rejettent ma parole, ils vont rejeter la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. En d'autres mots, si tu ressembles à Jésus, tu seras traité comme Jésus. Pourquoi est-ce que tu aurais la prétention de penser que ton message à toi va être mieux reçu que le message de Jésus? Puis le message de Jésus, je veux dire, souvent il était très populaire, il y avait des foules qui venaient à lui. Mais en même temps, plus les foules découvraient vraiment son message, plus la foule diminuait. Puis je veux dire, lorsqu'il se retrouve sur la croix, la foule qui l'applaudit, qui est là pour l'adorer ou protéger sa réputation est assez limitée. Hein, c'est comme zéro. Maintenant, après ça, l'Évangile va se répandre partout dans le royaume, partout dans l'Empire romain. L'Évangile va vraiment se multiplier partout à travers l'Empire. Mais la vérité, c'est que l'Évangile n'est jamais vraiment populaire. Et les quelques fois dans l'histoire de l'Église où l'Évangile est devenu vraiment populaire, on parle de 2-3 ans avant qu'on n'ait plus l'Évangile. Quand l'Évangile devient vraiment accepté dans la société, ça prend très, très, très peu de temps avant qu'en fait ce ne soit plus vraiment l'Évangile. Parce que si c'est plus populaire d'être chrétien que non-chrétien, il y a des gens qui deviennent des chrétiens nominaux qui embarquent dans ça, sans nécessairement avoir saisi l'Évangile. Donc, c'est vraiment important de comprendre ce que Jésus est en train de nous dire ici. Si vraiment on veut briller pour lui, il y a un prix à payer à ça. Puis, bien, on a été gâtés ici en Occident. En fait, comme ma mère disait lorsque j'étais petit, on a été pourris, gâtés. Donc, il y a peut-être un effet pervers aussi à être gâté. On devient confortable, on se laisse aller, tout ça. Quand j'étais allé visiter en Russie, les chrétiens là-bas de Russie, moi, je ne comprenais pas toutes les difficultés auxquelles ils font face quand les pasteurs se réunissent. Personne n'apporte son cellulaire dans une réunion, on laisse ça dans la voiture pour ne pas être écouté, tout ça. Donc, c'est toutes des complications. Mais eux autres me disaient, écoute, vous l'avez vraiment difficile. Moi, je ne voudrais pas élever mes enfants dans votre culture où le péché est omniprésent. Fait qu'on a été gâtés, mais peut-être qu'on a été pourris gâtés aussi. Puis là, on sent que la culture bouge, on sent que le sable commence à trembler, la terre commence à trembler un petit peu sous nos pieds, on devient super nerveux, super anxieux. Jésus nous dit, « Hey, ça va être comme ça, les amis. C'est à ça qu'il faut se préparer. » Puis il y a quelque part, il y a quelque chose de glorieux dans ça, parce que dans le fond, comme ils ont traité Jésus, ils vont vous traiter. Et si tu ressembles à Jésus, tu vas être traité comme Jésus. Certains vont t'accueillir en disant, « Wow, mais quel message incroyable! C'est merveilleux, l'Évangile! Christ est mort sur la croix pour mes péchés, ils vont devenir chrétiens! » Certains vont faire ça. Ce ne sera jamais la majorité. Donc, le premier point, ça va faire mal. Ça va faire mal, puis il n'y a pas de manière d'enrober la pilule pour que ça ne fasse pas mal. Comprenez, ce n'est pas ta petite pilule pour un petit mal de tête qui est enrobée dans du sucre. Non, c'est un traitement de chimio que tu t'en vas faire avec l'Évangile. C'est ça que tu apportes. C'est jamais une bonne nouvelle, un traitement de chimio. Hein? Jamais. Il n'y a pas comme de manière de dorer cette affaire-là. Mais l'Évangile, c'est ça. Hein? On s'en va guérir un cancer. On s'en va guérir un cancer. Ce n'est pas un petit mal de tête qu'on s'en va soigner avec l'Évangile. C'est le cancer du péché. C'est un traitement de chimio. Il n'y a pas de manière de l'enrober. Tôt ou tard, il y a des gens qui vont rejeter ça parce qu'ils vont dire « c'est inacceptable pour moi ». Premier point, ça va faire mal. J'espère que ça vous motive ce matin. C'est bon, hein? Ça va faire mal. Deuxième point, tu ne fais plus partie de la gang. Tu ne fais plus partie de la gang. Si vous étiez du monde, au verset 19, dans le monde vous aimerait ce qui était lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, on sait bien que les chrétiens, ce n'est pas du monde, hein? Parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Encore une fois, comme je dis, dans notre culture, on n'est pas tant toujours haï parce qu'on est chrétien. C'est pas toujours si difficile. Mais en même temps, il y a un moment où tu prêches l'Évangile, puis il y a des réactions, puis il y a des réactions de rejet, puis ça fait partie de l'histoire. Puis tantôt, je vais parler de l'importance d'avoir un bon témoignage, parce que tu peux aussi être détesté parce que tu es détestable, pas à cause de l'Évangile. Il y a de la place aussi pour beaucoup d'hypocrisie de la part des chrétiens. Il y a de la place pour avoir un très mauvais témoignage aussi. Mais même lorsque tu as un excellent témoignage, même lorsque tu aimes les gens, même lorsque tu prêches l'Évangile pur dans toute sa beauté, dans toute sa grâce, bien, tu ne fais plus partie de la gang. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous avaient vécu mon expérience à moi. Quand j'étais dans la cour d'école au primaire, moi, j'étais un nerd. Vous allez dire, ça n'a pas beaucoup changé, vous avez raison, mais j'étais un nerd. Tu sais, le genre de nerd qui se fait attendre à la fin des classes pour se faire péter la baboune, juste par pur plaisir, parce que je faisais vraiment une très, très bonne victime. Puis, j'étais seul dans ma cour d'école, tu sais. Puis, les fins de journée étaient assez ardues. Bien, j'ai décidé de ne pas rester dans cette position-là sans gang très, très longtemps. Quand j'ai vu une couple de brutes qui étaient des nerds, mais qui étaient comme plus fêlés un peu, j'ai dit, ça, c'est ma nouvelle gang, parce qu'avec eux, je vais pouvoir me défendre. Quand tu deviens chrétien, tu n'es plus dans la gang. Tu ne fais plus partie du monde. Tu n'es plus dans la gang. Mais tu n'es pas cet enfant dans une cour d'école qui se promène seul, complètement abandonné. Ce n'est pas ça le message de Jésus ici. Jésus veut qu'on soit lucide. Tu ne fais plus partie de la gang. Non, parce que tu fais partie de la sienne maintenant. Tu fais partie de sa famille. Christ est venu pour que nous entrions dans la famille de Dieu. Et si on doit avoir un témoignage puissant pour l'Évangile, je dois accepter cette réalité-là que je ne fais plus partie d'une gang, je suis dans une autre. Ça ne va pas m'empêcher d'aimer ma famille, ça ne va pas m'empêcher d'aimer mes amis, ça ne va pas m'empêcher de cultiver des relations avec eux. Ce n'est pas ça le point. Au contraire, aime ton prochain, aime même tes ennemis. Dans l'Évangile, tu trouves une puissance pour toujours aller vers ton ancienne gang puis les aimer. Mais tu ne fais plus partie de la gang parce que tu es rentré dans la famille de Dieu. Verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Jésus dit, en fait, c'est même pas parce que toi, tu l'as choisi que tu ne fais plus partie de la gang du monde. C'est parce que lui t'a choisi. Parce qu'un jour, quelqu'un t'a annoncé l'Évangile, puis à travers le message de l'Évangile, il y a un moment où c'est passé d'un message entre un échange entre deux êtres humains, puis l'Esprit-Saint est venu se mêler de ça. Puis la voix de l'Esprit a transformé ce message-là, que d'autres entendent, puis ça passe hein, comme ça. Mais toi, tout d'un coup, c'est ce message-là qui était étrange a commencé à devenir mélodieux. C'est l'Esprit qui était en train de t'attirer à Christ. Ce message-là, tout d'un coup, ça a commencé à sonner comme une mélodie qui était douce à entendre. Puis à un moment donné, ça a conquis ton cœur. C'est Christ qui t'a choisi. C'est lui qui t'a choisi. C'est vrai qu'il m'a choisi, je l'ai choisi, j'ai un rôle à jouer. Je suis d'accord avec tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de profondément rassurant, de profondément bénissant, comme on dit dans notre jargon, de savoir qu'il m'a choisi pour être dans son équipe. Moi, j'étais vraiment, tout mon primaire, j'étais vraiment comme un des deux derniers joueurs qui étaient choisis pour l'équipe de ballon chasseur. Ma seule vertu, c'était de courir pour éviter le ballon. D'accord? C'était ma seule qualité à cette époque-là. C'est pas pour rien que je fais des arts martiaux, je fais de la compensation. Vous comprenez? Mais Jésus m'a choisi dans sa gang. C'est lui qui m'a choisi. Écoute, c'est le meilleur capitaine que tu peux avoir pour ton équipe, il t'a choisi dans sa gang. C'est ça qu'il est en train de nous dire. C'est ce qu'il dit dans le passage juste avant ça même. Verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. » C'est ça, rentrer dans une gang, c'est devenir des amis. « Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon père. » Verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père... » C'est vraiment intéressant. Il ne dit pas « à mon Père », mais « au Père ». Parce que le Père de Jésus, c'est maintenant mon Père. Et ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je ne fais plus partie de la gang, du monde. Je ne suis pas du monde, parce que je fais partie de la famille de Christ. Je suis un ami de Jésus-Christ. J'ai le Père de Christ pour mon Père à moi. Le protecteur de Christ, c'est mon protecteur. C'est ma famille et la communauté des frères et sœurs de Jésus, des amis de Jésus. C'est ma communauté, c'est ma gang. Ton rapport au monde et changer à jamais. Et c'est quelque chose qu'on doit assumer entièrement comme chrétien. Quand l'Évangile est devenu une mélodie dans tes oreilles, quand l'Évangile est passé d'un message intéressant ou choquant, peut-être pour d'autres, mais pas pour toi, puis tout d'un coup, c'est devenu une mélodie dans ton âme à toi. Tu as changé de gang. Et ton rapport au monde a été radicalement transformé. Il n'y a pas de manière de trouver à faire des petites stepettes, une petite danse qui va faire que tout d'un coup, l'Évangile va être super beau pour tout le monde. Puis ils vont dire, « Ah, Yannick, tu es devenu chrétien, mais tu es vraiment, vraiment, vraiment cool. » Bien, des fois, après 10 ans de vie chrétienne, les réactions difficiles sont passées. Les gens réalisent qu'il y a des belles vertus derrière ça, puis il y a un témoignage qui s'installe. C'est pour ça qu'on aime les gens, on continue à les aimer. Oui, souvent, il y a un respect qui s'installe. Mais en même temps, il y a une espèce d'entente. Écoute, tu peux m'en parler une fois par année. On va aller prendre un lunch, je vais t'écouter 15 minutes, mais commence pas à me parler de ton Jésus tout le temps, là. Puis Jésus est en train de nous dire, oui, mais c'est normal. C'est normal. Ton rapport au monde a changé à jamais. Est-ce que tu assumes ça? Si tu ne l'assumes pas, si tu essaies de trouver un moyen de dire, regarde, je suis devenu chrétien, mais il n'y a rien qui va changer, ça va bien se passer, ça va être comme avant. Tu n'arriveras pas à partager l'Évangile. Tu vas toujours être en train d'un petit peu adoucir les coins, un petit peu, tu sais, ajuster ça. Tu vas essayer d'avoir un évangile populaire. Un évangile populaire, ce n'est plus l'évangile. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Je veux dire, c'est un traitement de chimio. Quand est-ce que la chimio, ça va devenir comme quelque chose de cool? Hey, qu'est-ce qu'on fait vendredi soir? On s'en va tous chercher notre traitement de chimio. Je pourrais aller au cinéma, mais je vais aller prendre un traitement de chimio. Non. Ça ne se passera pas. Ça n'arrivera pas. L'évangile ne sera pas cool. Tu ne peux pas ajuster le message pour que ça devienne cool. Ton rapport au monde est transformé à jamais. Puis en fait, beaucoup de jeunes qui sont nés dans une église, sont élevés dans un foyer chrétien, c'est souvent ça le moment fatidique, le moment où ils disent, « OK, je m'assume entièrement. J'assume le fait que je veux être chrétien. » Puis advienne que pourra, si j'ai à perdre des amis dans le processus, je vais vivre avec ça. Peut-être qu'ils vont rester, peut-être qu'ils m'aiment assez pour garder vraiment une amitié avec moi. Tant mieux si c'est le cas. Mais pour beaucoup de jeunes qui sont élevés dans un foyer chrétien, c'est ce qu'ils redoutent le plus. Ce moment où ils vont dire « mon rapport au monde est changé radicalement ». Et à travers tout ça, je suis jamais en train de dire qu'on est censé haïr le monde, qu'on est censé fuir le monde. L'Évangile me commande d'aimer mon prochain. L'Évangile me commande d'aimer mes ennemis. L'Évangile me commande d'aller vers l'autre. L'Évangile me commande de pardonner ceux qui m'offensent. L'Évangile me commande d'accueillir ceux qui cherchent. L'Évangile me commande de passer par-dessus les offenses. Donc, ce n'est pas une question de retrait puis de dire « Ah, eux autres, je ne suis pas capable de les sentir. » Ce n'est pas ça du tout le message. Mais tu ne pourras pas les aimer comme Christ les aime si tu n'acceptes pas que ton rapport au monde a radicalement changé quand tu es devenu chrétien. Amen? Vous n'arriverez pas à le faire. Vous allez rester en silence, vous ne parlerez pas, vous n'oserez pas dire un mot. Vous ne voudrez pas déranger de peur que ça affecte les relations. C'est motivant, Dad? Ça va faire mal. Tu ne fais plus partie de la gang. Tout va bien. Mais j'ai un dernier point pour vous encourager. Prends le pas personnel. Versets 19 et 20. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre. Écoute, tu ne feras pas mieux que Jésus. Tu ne feras pas mieux que Jésus. Si tu as l'impression que, je ne sais pas, la culture a changé, il y a plus d'ouverture à l'Évangile, ça va mieux se passer que pour Jésus. Sérieux. Tu penses que tu vas faire mieux que Jésus? Tu ne feras pas mieux que lui, je te le garantis. Verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ce n'est pas toi que les gens rejettent ou que les gens acceptent. C'est super important, ça. Par nature, on aime être accepté par les gens autour de nous. Puis plus on a de respect pour une personne, plus on aime quelqu'un, plus on aimerait qu'il nous accepte. Mais ce n'est pas toi qu'ils rejettent ou qu'ils acceptent. C'est Christ. Maintenant, je fais une parenthèse. Ça demande évidemment que mon témoignage soit conséquent avec la parole de Dieu. Il y a toutes sortes de choses horribles qui ont été faites au nom du christianisme. Je veux dire, on est en train de déterrer une histoire. Excusez-moi. Mais on est en plein là-dedans avec les pensionnats autochtones. Des horreurs qui ont été faites en partie au nom de l'Évangile, où on arrachait des enfants à leur famille parce que, soi-disant, ces parents-là n'étaient pas dignes de les élever pour pouvoir les endoctriner dans notre culture à nous. Et s'ils mouraient, on les enterrait dans des fosses anonymes. Et pour énormément d'Autochtones au Canada, ça, c'est le christianisme. C'est ça, le christianisme. Et autant j'aimerais complètement me détacher de ça puis dire, non, je suis désolé, moi, j'ai jamais fait ça. Notre Église n'a jamais fait ça. La vérité, c'est que pour eux, c'est ça. Jésus détestait l'hypocrisie religieuse. Lisez les Évangiles, vous allez voir, Jésus détestait l'hypocrisie religieuse. Je répète souvent ici à l'Église, il n'y a pas un chrétien qui est bon, il y a juste Dieu qui est bon, il n'y a pas de chrétiens qui sont parfaits. Mais quel est le remède à tous nos manquements, à toutes nos faiblesses? C'est l'humilité devant les gens qui nous regardent. Tu ne seras jamais un témoin parfait de maturité chrétienne pour tes enfants, mais confesse-le à tes enfants. Dis-le les endroits où, écoute, je sais que ça ne ressemble pas à Jésus ici. Je travaille fort, Jésus est patient avec moi, c'est ça l'Évangile. Si ça peut t'encourager, si tu viens à Christ, il va être patient avec toi aussi, tu sais. Mais je sais que ça ne marche pas ici. Puis avec des collègues de travail, quand le témoignage ne va pas, quand je ne sais pas, tu t'échappes, il y a une vacherie qui sort dans une réunion de ta bouche. Ça n'arrive jamais à un chrétien de faire ça. Ou tu commences à faire de la médisance, tu suis la gang, tu commences à parler dans le dos de quelqu'un d'autre, tu attaques sa réputation. Tellement facile dans un contexte de travail de faire ça. C'est quoi le remède pour nous? Ce n'est pas de prétendre être parfait, ça c'est de l'hypocrisie, il n'y a que Christ qui est parfait. C'est qu'on va reconnaître tous les manquements qu'on a faits, puis je vais aller plus loin, je vais même reconnaître tous les manquements qui ont été faits au nom du christianisme. Je ne vais pas simplement dire « ça, ce n'est pas du christianisme ». Non, je vais reconnaître à quel point c'est offensant et c'est terrible ce qui s'est fait au nom de Christ. Mais notre remède, c'est l'Évangile. C'est humblement de dire « écoute, tu as tellement raison, souvent je ne ressemble vraiment pas à Jésus. » Souvent je ne ressemble vraiment pas à Jésus. Et donc c'est important pour nous de chercher à être intègres. C'est important pour nous d'être humble, c'est important pour nous d'être vrai. Mais en même temps, si mon rapport avec mes amis pour leur parler de Jésus, s'il y a dans la balance l'enjeu de l'acceptation d'Yannick, est-ce que je vais être accepté? Ça va m'empêcher d'ouvrir la bouche pour Christ. Ça va m'empêcher de leur faire connaître le meilleur remède pour leur cancer. L'Évangile, le cancer qui atteint l'âme de tous les hommes. Et donc, lorsque tu annonces l'Évangile, écoute, s'ils l'acceptent, ce n'est pas toi qui acceptes, c'est Jésus. Aucune gloire pour toi, je suis désolé, tu viens de perdre toute la gloire, tu laisses ça à Christ. S'ils te rejettent, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est Dieu. Jésus va jusqu'à dire, ils sont en train d'haïr mon Père. Puis les gens ne font pas le lien. Tu annonces l'Évangile, tu parles des œuvres de Jésus. Jésus, il dit, c'est à cause des œuvres que j'ai faites. C'est quoi les œuvres qu'il a fait, Jésus? Bien sûr, il y a les miracles, mais c'est beaucoup plus que ça, les œuvres qu'il a fait. Il a dénoncé l'hypocrisie, il a présenté un Père qui est aimant, il a confronté les hommes avec leurs péchés, il est surtout mort sur la croix pour nos péchés. Et lorsque tu annonces cet évangile-là, en aimant les gens souvent vont avoir une espèce de réaction où c'est comme... totalement incohérent. Tu me sembles quelqu'un de gentil, quelqu'un qui aime, mais quand tu ouvres la bouche, ce que j'entends, c'est un Dieu qui me juge. C'est un Dieu qui juge les hommes. Écoutez, on est dans la culture de l'acceptation totale de tout le monde, selon tout ce qu'on veut être, puis tout ce qu'on est, puis tout ce qu'on pense être. Et je ne suis pas en train de dénigrer toutes les détresses psychologiques qu'il y a dans notre monde. Pas du tout. Mais je veux dire, ce qu'on entend très, très, très souvent, c'est que ton Dieu, n'accepte pas tous les hommes. Et s'il n'accepte pas tous les hommes comme ils sont, il ne peut pas être bon. Les gens n'arrivent pas à faire un lien entre la bonté, la sainteté et la justice. C'est tellement absent de notre culture qu'ils ne sont pas capables de faire les liens ici. Fait que tu as beau les aimer et essayer de présenter l'Évangile enrobé d'amour avec un témoignage extraordinaire, il y a un moment où tu dois annoncer un message qui est un traitement de chimio pour un cancer de l'âme. Et si, dans tes rapports avec tes amis, la question de toujours être accepté est fondamentale, tu ne pourras pas présenter Christ. Parce que pour leur présenter Christ, il faut que tu acceptes que ce n'est pas toi qu'ils rejettent et ce n'est pas toi qu'ils acceptent. Ça se passe entre Dieu et eux. Et nous sommes des messagers. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. On va prendre ensemble le repas du Seigneur. J'espère que ça vous a motivé ce matin. Ça va faire mal, tu ne fais plus partie de la gang. Mais prends-le pas personnel. Tu fais partie de la famille de Dieu. Puis on va prendre ensemble le repas du Seigneur. Puis Jésus, le message a de l'air paradoxal parce que Jésus est en train de préparer ses disciples à entrer dans une vie de joie. Une fois qu'il passe à la croix, une fois qu'il ressuscite d'entre les morts, une fois qu'il monte auprès du Père, le Saint-Esprit va être donné. Cette communauté-là va devenir une communauté avec un témoignage puissant pour l'Évangile. Les gens de Jérusalem vont voir l'amour qu'il y a au milieu d'eux, vont les voir chanter des louanges, vont les voir au temple, ils vont être là. Mais c'est qui ce gang-là? Il y a tellement d'amour, c'est pas croyable le témoignage qu'il y a là. Jésus est en train de les préparer à entrer dans une vie de joie. Et c'est ça la vie chrétienne, c'est une vie de joie. Mais c'est une vie de joie où il y a énormément d'amour dans la communauté de l'Église. C'est notre premier commandement dans notre rapport les uns avec les autres. C'est de s'aimer. Notre témoignage en dépend, mais notre support aussi en dépend.